Débat d'orientation budgétaire hier au conseil municipal de Nouméa. Après les émeutes de l'an dernier, la commune va passer en épargne négative. C'est aujourd'hui le mercredi des cendres. Pour les chrétiens, c'est l'entrée dans le carême. 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Belle affluence à l'UNC ce matin. Le salon des masters et de l'emploi permet notamment aux étudiants de trouver des renseignements pour la poursuite de leurs études. En Australie, la Sunshine Coast en alerte. Le cyclone Alfred doit toucher les côtes d'ici 24 heures. Volodymyr Zelensky s'aligne sur Washington. Après 4 jours de tension, il répond aux exigences du président américain et donne son feu vert à des discussions sur une paix durable avec Moscou. Et puis en sport, le début des 8e de finale de la Ligue des Champions. Beau résultat de Lille qui est allé faire match nul un partout au Borussia Dortmund. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, revenons sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Le déplacement en Azerbaïdjan de 2 journalistes calédoniens, dont Kelinda Bouakou de Radio Rythme Bleu. RRB a choisi de faire toute la lumière sur cette visite qui a suscité beaucoup de questions et de réactions. Vous savez que l'on ne peut nous soupçonner d'aucune complaisance à l'égard de l'Azerbaïdjan et que nous avons dénoncé plus que d'autres les ingérences du groupe Initiative Bakou et son rôle supposé dans les émeutes du mois de mai. Mais en tant que journaliste, il nous semblait intéressant de voir de près comment fonctionnait le groupe Initiative Bakou. Et pour lever toute ambiguïté, nous avons fait le point avec Kelinda Bouakou à son retour sur le territoire. Elle est interrogée par Elisabeth Noir.
Notre déplacement en Azerbaïdjan a surpris les Calédoniens, les auditeurs. D'abord, précisez-nous comment vous avez été sollicité et par qui ?
Alors, j'ai été sollicité courant au mois de février de cette année par Marilyn Sakilia. Elle m'a proposé le voyage à Bakou en me parlant de formation média. Et que avec moi, il y aurait un autre journaliste et d'autres personnes qui ont participé à cette formation.
Alors finalement, qui sont les Calédoniens qui ont participé à ce voyage à Bakou ?
Alors, il y a eu André Roisé, journaliste de Radio Jido, et Emmanuel Beoundé, qui est militant du Palika, que l'on présente comme technicien de l'UNI.
Pourquoi est-ce que vous avez été approché et invité, selon vous ?
Alors, je pense parce que je suis journaliste mélanésienne et aussi travaillant à Radio Rythme Bleu, radio qui prône la Calédonie dans la France.
On va revenir sur votre voyage, mais il y avait d'autres journalistes invités dans cette formation. Hein.
Oui, il y a eu des journalistes venant de la Guadeloupe, de la Guyane, de Madagascar basée à Paris, une journaliste azerbaïdjanaise basée à Paris et un journaliste libanais basé à Dubaï.
Alors vous-même, quand vous êtes parti là-bas, vous saviez ce qu'était l'Azerbaïdjan ? Vous aviez déjà entendu parler du régime de Bakou ?
Oui, puisqu'on en parle déjà depuis quelques temps sur Radio Rythme Bleu, de ce qui se passe à Bakou, en Azerbaïdjan, et aussi de son implication en Nouvelle-Calédonie aussi. Je sais aussi, bien entendu, que c'est un régime autoritaire et qu'il a participé aussi dans le génocide des Arméniens catholiques.
Quand on vous a envoyé là-bas, vous n'avez pas eu un peu peur de la manière dont vous serez accueilli ?
J'avouerai que je ne me suis pas posé de questions là-dessus. Je suis allée, entre guillemets, tête baissée et je me suis dit, j'irai, je découvrirai sur place exactement ce dont j'en ai entendu parler ici.
Comment ça s'est passé là-bas ? D'abord, il y a beaucoup de questions sur la prise en charge de ce voyage et de ce déplacement. Qui a payé ?
Alors, de ce que j'ai compris, c'est le groupe Initiative Bakou qui a financé le voyage en coopération avec le FID. En fait, ils ont financé tout, du billet d'avion jusqu'à l'hébergement, le transport sur place, l'organisation également qu'il y a eu sur place avec les différents organismes que l'on a rencontrés.
Sur place, justement, quel a été votre programme ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Où est-ce que vous êtes allé ?
Il y a eu la présentation de l'ONG, du groupe Initiative Bakou. Ensuite, il y a eu la rencontre du Forum national des ONG d'Azerbaïdjan. Il y a eu le Centre d'analyse des relations internationales. Il y a eu également la rencontre avec le conseil de presse de l'Azerbaïdjan et ce qu'ils disent une formation en communication pour les participants, rencontre avec la faculté de communication, la visite du centre de service Azan ou encore la visite du Parlement. Et il y a eu aussi une rencontre avec l'agence de presse d'État azerbaïdjanaise. Ce que l'on dit formation média, on a plutôt rencontré les différents organismes de médias sur place. On a posé des questions plus qu'une formation, et même en étant à l'université de communication, on a plus assisté à un cours qui a été donné à ces élèves plutôt que participer à une formation. On avait plus l'impression que c'était plutôt une mise en scène plus qu'une formation, et c'était plus de critiquer en fait l'État français et vis-à-vis des Outre-mer et de ce que dit la France vis-à-vis de l'Azerbaïdjan.
Vous ne parlez pas azéri, comment est-ce que vous êtes débrouillé là-bas et les conférences étaient faites comment ?
Il y a eu deux traducteurs azerbaïdjanais qui faisaient la traduction française et anglaise. Enfin, ça allait un peu dans tous les sens.
Vous n'étiez jamais seul. Ils vous ont toujours accompagné tout au long du voyage.
Alors, pendant tout le voyage, on était à l'hôtel. De l'hôtel, on avait un bus qui nous récupérait, qui nous emmenait partout. Et c'était presque millimétré. J'avais l'impression d'assister à une visite ministérielle. Et c'était vraiment très millimétré et on était toujours accompagné des responsables du groupe Initiative Bakou partout où on allait.
Rassurez-nous, vous n'avez pas été convaincu par le régime d'Azerbaïdjan. Vous n'avez pas changé de position et d'opinion concernant la Nouvelle-Calédonie.
Alors, c'est une question qu'on me pose depuis que je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, depuis que j'ai débarqué en Nouvelle-Calédonie samedi. Pas du tout, ça fait quand même 22 ans que je suis à RRB. Je suis rentrée à la radio, j'avais 18 ans. J'ai fêté mes 40 ans l'année dernière à la radio avec tout le monde. Donc non, c'est pas 3 jours va me faire changer d'avis sur ce que je pense de la radio, de mes idées, de la Nouvelle-Calédonie. Et ça n'a pas changé en fait ma façon de penser et ma façon d'être vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie et de tous ceux qui m'entourent.
Vous avez été surprise que ça fasse autant de bruit ce voyage ?
Complètement, parce que j'étais pas du tout préparée à être submergée de messages. Quand on est arrivé en escale à Bangkok, on se connectait au wifi de l'aéroport et là, ding 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 ding, des tas de messages qui nous disaient « Ah, t'es à la une sur NC Première, ils ont dit ça, 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 ça ». Et la première réaction, ça a été le choc. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Pour nous, c'était naturel d'y aller parce que c'était une opportunité d'aller sur place pour se rendre compte et pour voir, comme je disais, ça peut être naïf de ma part, mais de toucher du doigt ce que tout le monde dit. Tous les trois, on vient d'horizons différents. Et arrivé là-bas, en fait, ben, j'étais la seule journaliste non indépendantiste. Et tous les autres ultramarins, comme les deux camarades qui étaient avec moi, ils sont tous indépendantistes. Alors, débarquant là-bas, je me suis dit, on va me poser des questions, pourquoi et tout. Et en fait, le groupe Initiative Bakou nous a eux-mêmes délivré des visas. Donc, en arrivant à Bakou, on n'a pas eu de problème pour entrer. Et parce que le groupe Initiative Bakou a pris l'initiative de faire nos visas. Nous, on s'est occupé de rien.
Voilà, donc avec Kelinda Bouakou, nous sommes revenus, qui était interrogée par Elisabeth Noir, nous sommes revenus sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière, son déplacement en Azerbaïdjan avec un autre journaliste calédonien. Une interview donc pour faire le point sur cette affaire et sur laquelle nous avons choisi de faire toute la lumière. Il est 11h39. L'actualité en Calédonie est journée studieuse pour le gouvernement, les groupes politiques du Congrès, les représentants des provinces et des associations de maires. Ils ont participé hier à un séminaire financier organisé à l'initiative du président du gouvernement Alcide Ponga et de Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du budget et des finances, Nicolas Legrand.
Oui, ils ont planché toute la journée après un premier séminaire qui s'était tenu il y a 2 semaines maintenant et qui servait lui à faire un état des lieux de la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. Hier, tout a été mis sur la table concernant les pistes d'économie ou encore les trajectoires à mettre en place concernant la santé, l'énergie ou encore la CLR. Des hypothèses ont été avancées, mais il est encore trop tôt pour prendre des décisions. L'objectif est de faire présenter un budget d'un montant de 100 à 105 milliards, selon Alcide Ponga, le président du gouvernement.
On n'a pas décidé, parce qu'il va falloir encore qu'il y ait quelques réunions techniques d'ici les prochaines semaines pour qu'on puisse s'aligner et décider des différentes trajectoires qu'on prendra sur tel ou tel secteur. Donc c'était l'objectif de la réunion. Et je dois dire que je salue la contribution de l'ensemble des parties prenantes. C'était important aujourd'hui de parler, de se dire les choses. Et puis ça permet d'améliorer le travail qui a été fait par les équipes du gouvernement. Donc on va le peaufiner en espérant qu'on arrive à un exercice budgétaire à la fin du mois qui, on va dire, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais un peu à l'image du budget national, ça sera le moins mauvais pour tout le monde.
Mais le président du gouvernement est sans ambiguïté et Alcide Ponga ne cache pas que la situation financière de la Nouvelle-Calédonie est extrêmement critique et que les choses ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain.
Si les Calédoniens pensent que l'année 2024 c'était une année difficile, je pense qu'il faut se préparer parce que 2025 sera encore plus difficile parce que les réels impacts financiers de tout ce qui s'est déroulé en 2024, on va le ressentir en 2025. Et si on n'arrive pas à se caler, à faire les choses comme il faut, si on n'arrive pas également à trouver un accord politique pour sortir de cet entonnoir, si on pense qu'on a souffert en 2024, on va souffrir plus encore en 2025. Mais la balle, elle est dans notre camp. La responsabilité, elle est entre nos mains. Et c'est à nous de faire les choses bien comme il faut, sans se disputer, sans chamailler, mais en se comprenant les uns les autres pour avancer et puis redonner du sens à la Nouvelle-Calédonie et aux Calédoniens et aux institutions calédoniennes.
Les travaux techniques vont donc se poursuivre pour alimenter le débat d'orientation budgétaire, mais dans un délai très contraint, puisque le budget de la Nouvelle-Calédonie doit être voté avant le 31 mars.
Finances publiques toujours, et le conseil municipal de Nouméa a été réuni hier en fin d'après-midi pour son débat d'orientation budgétaire, étape indispensable qui précède de quelques semaines l'examen du budget d'une collectivité, Lionel Sabot.
Sans surprise, et comme les autres communes de Calédonie, la ville de Nouméa doit faire face à un contexte économique très tendu après les émeutes débutées en mai 2024. C'est un budget d'environ 26 milliards de francs qui sera examiné et débattu par les élus le 26 mars prochain. Budget à l'équilibre grâce à l'argent versé par l'assurance de la commune. En revanche, la ville va passer en épargne négative. Écoutez Sonia Lagarde, le maire de Nouméa.
On est passé à travers les gouttes en 2024 avec tous les efforts qu'on a fait. Donc on a réussi à payer tout le monde, à la fois les agents et puis à payer les travaux qu'on a fait, mais la situation se corse. C'est un débat difficile dans le sens où il faut qu'on vote un budget à l'équilibre. Alors pour 2025, on va pouvoir le faire grâce à l'argent de l'assurance, qui est une recette exceptionnelle. On est très inquiet concernant notre épargne. On va passer en épargne négative. Et puis on est suspendu aussi au fait que la Nouvelle-Calédonie est incapable, au moment où je vous parle, de nous dire « voilà les perspectives, aujourd'hui on n'en a pas ». Donc on est en train de faire un budget avec un pourcentage en moins sur le FIP, sur les centimes additionnels, mais on navigue à vue.
C'est donc un budget d'environ 26 milliards de francs pacifiques qui a été construit par les services de la commune et qui sera soumis au vote des conseillers municipaux dans un peu plus de 15 jours. Budget avec un certain nombre de priorités. On retrouve Sonia Lagarde.
Les grandes priorités, c'est de poursuivre les travaux que nous avions engagés, qui étaient des coupes parties en 2024, dont certains ont été obligés d'arrêter. Mais on les reprend, c'est l'assainissement et l'eau potable de la rue Jaurès. C'est un gros chantier, mais il faut le faire. C'est de poursuivre les travaux de la polyclinique de Lanzvata. La dernière phase de la route du Port des Pointes, les trottoirs que nous n'avons pas encore terminés dans le centre-ville. On n'en rajoute pas d'autres, sauf évidemment à démolir et à reconstruire un certain nombre de structures municipales qui ont été brûlées pendant les émeutes. On ne reconstruira pas d'école, parce qu'on a une déperdition d'enfants, on en a presque 1000. Donc on a décidé de ne pas reconstruire, parce qu'on a réussi là, en début d'année, quand l'école a repris, à pouvoir placer tous les élèves sans surcharger les classes dans des écoles où on disposait de classes qui étaient libres parce que manque d'enfants.
Et les élus se retrouveront donc le 26 mars prochain pour examiner le budget primitif 2025 de la ville de Nouméa, budget qui avoisinera donc les 26 milliards de francs. Précisons qu'en début de mandature, le budget de la commune de Nouméa était d'environ 30 milliards de francs.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie sera capable de voter un budget avant le 31 mars? Si vous pensez qu'elle sera capable de voter un budget avant le 31 mars, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il faut associer la population et la société civile au débat sur le document sur l'avenir institutionnel proposé par l'État. Ils sont donc 11% à être d'un avis contraire. Il est 11h45, la première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. Il y avait déjà beaucoup de monde dans les églises ce matin pour la messe des cendres qui marque l'ouverture du carême.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'est aujourd'hui le début du carême pour les chrétiens, période de 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Les catholiques sont invités aujourd'hui à participer à la messe du mercredi des cendres. Ils étaient nombreux ce matin à assister à la célébration à la cathédrale de Nouméa à 6h.
On a reçu les cendres, c'est-à-dire que nous sommes nés de la poussière et retournerons à la poussière.
Le mercredi des cendres, c'est l'entrée dans le carême pour les 40 jours avant Pâques.
Et aujourd'hui, il y avait un message particulier?
Oui, que nous soyons toujours dans l'espérance.
Le mercredi des cendres, c'est le commencement du carême, notre préparation à la fête de Pâques, la résurrection du Christ. Il faut surtout prier pour la Calédonie, pour notre pays, pour le pardon et la réconciliation.
C'est là où tu t'engages à te consacrer, à arrêter ce que tu abuses de la vie. J'ai préparé la Pâque. Ouais.
C'est une renaissance, une espérance, le début du carême. Et c'est le moyen de se rappeler qu'on est poussière, qu'on repartira à la poussière. Et également de se recentrer sur Dieu, c'est le but du carême aussi.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou ce matin. Une messe des cendres sera célébrée ce soir encore à 18h à la cathédrale de Nouméa. L'actualité de l'université, que faire après une licence? Où trouver les informations pour envisager une poursuite d'études? C'est pour tenter de répondre à ces questions que l'UNC organise aujourd'hui son salon des masters et de l'emploi, Michael Juneski.
Oui, l'idée est de réunir en un seul lieu sur le campus de Nouville le maximum d'informations avec des stands, des intervenants présents pour échanger avec les étudiants, aussi bien les formations après Bac plus 3 présentes à l'université que des professionnels privés ou publics, des organismes d'accompagnement et même des structures qui peuvent proposer des stages, sans oublier des ateliers pratiques. L'affluence était forte dès l'ouverture.
On est venu voir du coup qu'est-ce qu'on pouvait faire après nos études pour pouvoir avoir un travail ici. Moi personnellement, je voulais travailler en Nouvelle-Calédonie, alors c'est un petit peu plus compliqué. Comme j'ai pour projet de faire professeur de physique-chimie, je me suis renseignée comment je pouvais faire par d'autres alternatives ici sur le salon mon master.
Pour l'instant, ça va. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets en entendant tout le monde, donc je suis contente, ça va. C'est bien pour les jeunes et tout, pour qu'ils, qu'ils ont des idées, voir ce qu'ils veulent faire après leur licence. Ou...
On découvre un peu ce qu'il y a, mais surtout pour ceux qui... Mais qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard.
Ben oui, c'est bon, comme ça au moins on découvre de nouvelles choses aussi au cas où.
C'est une bonne chose, ça nous permet de découvrir des formations, à nous former aussi.
C'est intéressant, il y a beaucoup de masters qui sont présents pour informer sur le contenu de leur programme. Aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues pour notamment postuler à un futur job. Oui, je trouve que c'est une belle initiative de l'université d'avoir organisé ce salon des masters.
Ben, ça permet aux étudiants de rester sur place, de continuer leur cours et en même temps que ils aient des disponibilités, des personnes qui viennent pour eux directement sur le site.
Voilà, pour être encore mieux accompagné, quoi de mieux que d'échanger avec des étudiants en master ou même des nouveaux diplômés, à l'image d'Idriel et d'Elijah.
Du coup, ici, c'est le stand des masters IPSI, donc Humanité, Ingénierie de projets socioculturels et interculturels. Et du coup, on est mobilisé sur ce stand pour présenter un peu ce qu'on fait. C'est la première année où ce master est ouvert. On échange sur l'interculturalité et c'est aussi l'occasion pour les personnes de pouvoir trouver des stages, prendre des contacts, répondre à leurs questions. Du coup, c'est une bonne initiative et on est tous heureux d'être là.
Ça vous fait quoi de vous retrouver là, derrière la table, à présenter votre formation?
Ça va, enfin, on fait ça avec joie, donc c'est tranquille et c'est un cadre... qui permet d'être à l'aise. Quoi. On est là, on échange tranquillement autour d'un café, donc c'est cool.
Je viens d'obtenir mon Master 2 de biotechnologie et droit, mention en droit international. Avec mes amis, on est partis ensemble, mais on s'est jeté dans l'inconnu. Quoi. Et je trouve que la démarche ici, c'est vraiment bien pour les étudiants. Parce que moi, à leur place, j'aurais aimé avoir cette chance aussi de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses aussi. Parce que l'inconnu, ça fait toujours peur.
C'est quoi que vous devez le plus souvent expliquer par rapport à ce départ ?
Là, depuis le début, c'est surtout les papiers à fournir. Les premières démarches les plus importantes à faire, j'ai pu aiguiller les étudiants comme j'ai pu. Quoi. Moi, quand j'étais ici, c'était un peu galère. Quoi. Et arriver là-bas aussi, il n'y a pas tes parents derrière toi, tu es livré à toi-même. Et... Donc tu prends la réalité un peu en face, mais rien n'est insurmontable. Il faut juste y croire et bien se préparer. Quoi.
Il s'agit de la deuxième édition de ce salon des masters et de l'emploi à l'université. Le rendez-vous continue jusqu'à 15h30.
Restons à l'université pour parler de la rentrée pour les doctorants qui a eu hier. Et nous en avons parlé ce matin avec notre invité à 7h30 sur Radio Rythme Bleu, Lionel.
En effet, nous recevions Jean-Marc Boyer, ancien président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui directeur de l'école doctorale du Pacifique, une école qui est commune aux universités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et qui en assure conjointement la direction. Une école qui est un véritable outil pour les doctorants, nous a expliqué Jean-Marc Boyer.
C'est un outil qui est à la disposition donc, des doctorants, un outil qui va les accompagner, on va dire, dans deux grandes sphères, sphère de la formation et dans la sphère administrative. Un doctorat, c'est long, il y a donc 3 ans, au minimum, hein, généralement 4, de procédures administratives, inscription, réinscription, accompagnement à la soutenance. Voilà. Et puis, donc, évidemment, le volet formation qui est un gros volet. Les doctorants doivent, on va dire, suivre des formations. Alors, ils ont un certain nombre de points à acquérir. Et ces formations, en fait, ce sont des outils, des compétences nouvelles pour eux, pour leur insertion professionnelle post-thèse.
Cette année, l'UNC compte 53 doctorants qui travaillent dans des domaines extrêmement divers. Une vingtaine de ces doctorants devraient soutenir leur thèse cette année après 3 ou 4 ans de recherche. Les doctorants qui, lors de leur parcours, ont une vraie vie professionnelle. On retrouve Jean-Marc Boyer.
Le doctorant, finalement, pendant 3 ans, il se forme à un métier. Donc oui, il va acquérir de l'expérience professionnelle. C'est pas Monsieur Tournesol dans sa bulle, déconnecté. Non, mais parce que ça perdure.
Mais oui,
ça perdure, cette image. Donc, c'est une personne qui va apprendre un métier, qui va développer des compétences nouvelles pendant 3-4 ans. Par exemple, ceux qui travaillent dans les laboratoires, ils apprennent à travailler en équipe, ils apprennent à travailler avec des ingénieurs, des techniciens, ils mènent des projets, ils savent également faire un état des lieux de l'art. Dans le domaine, dans un domaine, ils savent résoudre des problèmes complexes. Et ça, c'est très important parce que hier, à la rentrée des doctorants, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, il faut savoir se vendre en termes de compétences, notamment la communication. Ils savent s'adresser à un public varié, ils savent manipuler de la donnée, etc. Bref. Donc, oui, c'est un vrai parcours de formation professionnelle.
Jean-Marc Boyer, le directeur de l'école doctorale du Pacifique, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet RRB.com.
Infomag, il est 11h53.
La journée des droits des femmes, c'est le 8 mars, mais elle est célébrée au Médipôle ce mercredi. De nombreux intervenants sont en effet présents dans le grand hall de l'hôpital pour échanger, informer sur les droits des femmes, Léo Fichou.
Oui, des professionnels de santé, des associations, des juristes et des intervenants sociaux sont effectivement sur place à travers des stands, des échanges et des animations. Cette journée vise à sensibiliser, à informer, accompagner, mais aussi protéger les femmes autour de 3 thématiques. La santé, l'accès aux droits et la lutte contre les violences. Julie Catoire est responsable du service social au Médipôle.
La santé physique atteinte par les violences ou atteinte par le mal-être affectif, sexuel, psychologique a des répercussions à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau des finances, au niveau de l'insertion sociale et professionnelle. Donc c'est à tous ces niveaux-là qu'il y a tout un réseau qui existe et qui se mobilise autour des victimes et autour des femmes qui ont besoin d'aide. C'est une journée qui est centrée autour de l'information, de l'orientation, de la sensibilisation, mais au vu du nombre d'institutions et de professionnels qui sont présents, ils vont pouvoir donner des rendez-vous, ils vont pouvoir programmer et même écouter sur place s'il y a possibilité de donner des réponses immédiates.
Un important réseau s'est donc mobilisé aujourd'hui pour écouter, informer les femmes dans le besoin. On retrouve des associations médico-sociales, SOS Écoute, la DAVI, la SSNC, mais aussi des institutions comme la gendarmerie et la police, ou encore la Province Sud et le Sénat coutumier. Ils sont tous d'accord sur un point, c'était très important d'être au rendez-vous de cette journée dédiée aux femmes.
Je pense que c'est très important de rencontrer les femmes, mais pas que les femmes, hein, parce que la santé des femmes, la violence conjugale, etc., ça peut concerner aussi les hommes.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer auprès du public, du grand public, hein, pour débanaliser justement les violences conjugales et que les personnes justement puissent rencontrer les dispositifs qui existent, hein, pour pouvoir s'en saisir.
Oui, c'est important pour le Sénat, pouvoir aider, pour donner un coup de pouce et aussi faire évoluer les mentalités, et pour que la femme, surtout la femme Kaana, puisse être épanouie comme toutes les autres femmes des autres communautés.
Tout simplement promouvoir les actions qui visent à prévenir les cancers féminins et particulièrement le cancer du col et le cancer du sein. On va répondre aux questions, on va expliquer aux femmes comment faire la palpation mammaire, comment on fait un frottis, pour justement un peu démystifier ces actes de santé et permettre aux femmes de ne pas avoir peur et au contraire de prendre leur santé à bras le corps.
Et la santé, la journée internationale des droits des femmes, c'est donc jusqu'à 15h dans le grand hall du Médipôle.
Une nouvelle pause, on se retrouve dans un instant pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin. Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Préparez votre rentrée en toute sérénité avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. Le Toyota Raise à partir de 29 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross hybride à partir de 49 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota RAV4 hybride à partir de 55 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota Hilux à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Profitez des offres rentrées et rouler en toute tranquillité avec Toyota. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et finalement, Volodymyr Zelensky plie sous la pression de Donald Trump. Après l'incident à la Maison-Blanche et 4 jours de tension, le président ukrainien baisse les armes et répond aux exigences de Washington. Il donne son feu vert à des discussions sur une paix durable avec Moscou et parle même d'une trêve immédiate dans les airs et sur la mer. Un important changement de position, Arthur Delaborde pour Europe 1.
Dans un long tweet, le président ukrainien a accepté, quasi sans condition, toutes les demandes de Donald Trump. Mon équipe et moi sommes prêts à travailler sous la direction ferme du président Trump pour obtenir une paix durable, écrit Volodymyr Zelensky. À la demande du président américain vendredi d'un cessez-le-feu, il répond aujourd'hui que l'Ukraine est prête à faire une trêve dans les airs et en mer si la Russie s'engage à en faire autant, allant même jusqu'à envisager la libération de prisonniers. Et en gage de bonne foi, Volodymyr Zelensky s'engage à signer avec Donald Trump l'accord sur l'exploitation par les États-Unis des minerais ukrainiens à tout moment et dans le format qui lui convient, précise-t-il. Pour le moment, aucune réaction de la Maison-Blanche. Il faudra sans doute attendre la prise de parole de Donald Trump devant le Congrès américain cette nuit.
Intervention qui est prévue aux alentours de midi dans quelques minutes pour nous. Et puis pour mettre une pression maximale sur Kiev, le président américain a suspendu temporairement l'ensemble de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Une décision qui a pris effet immédiatement. Les livraisons d'armes et de munitions à destination de Kiev sont interrompues, y compris celles déjà commandées. Les pays européens doivent s'organiser sur les questions de défense et sécurité, car les États-Unis envisagent de baisser leur soutien financier. La présidente de la Commission européenne parle de 800 milliards d'euros à mettre sur la table, essentiellement de facilités budgétaires pour les pays membres qui doivent leur permettre d'emprunter. En France, Emmanuel Macron veut accroître le budget défense pour le faire passer de 2,1% du PIB à 5%. Et Paris envisage aussi de saisir les 200 milliards d'avoirs russes qui sont gelés depuis le début de la guerre. Pour l'instant, seuls les intérêts sont versés à l'Ukraine. Mais cette solution se heurte à plusieurs obstacles. Alexis de La Fontaine.
Les socialistes sont les premiers à avoir soutenu cette solution. Ils veulent faire payer le soutien à l'Ukraine par les biens des oligarques russes. Gabriel Attal, alors Premier ministre, était lui réticent à cette idée, mais semble maintenant changer d'avis.
Je crois que nous devons reconsidérer la position de la France sur les avoirs russes gelés. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine.
On ne pourra pas demander aux Français d'envoyer des soldats et de financer la guerre. Il faudra choisir, reconnaît un député du bloc central. Mais la saisie des avoirs russes reste encore très hypothétique, car de nombreux élus s'y opposent, comme le Rassemblement national ou le député de la France insoumise, Bastien Lachaud.
Le droit international interdit la confiscation de ces avoirs. Le droit international permet le gel, permet d'utiliser les bénéfices de ces avoirs, mais non pas leur confiscation.
Le ministre des Finances, Éric Lombard, s'est dit personnellement opposé à la saisie des avoirs russes, mais une ministre de premier plan confie à Europe 1 que le gouvernement n'a pas encore tranché la question.
En métropole, toujours la disparition d'une figure politique. Jean-Louis Debray s'est éteint à l'âge de 80 ans. Dans sa longue carrière, ce gaulliste de conviction avait notamment occupé la présidence de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Les députés ont observé une minute de silence et le Premier ministre François Bayrou lui a rendu hommage.
Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot de reconnaissance pour la personnalité qu'il était et pour le parcours qui fut le sien. Et s'il faut trouver un adjectif pour illustrer le chemin de Jean-Louis Debray, cet adjectif sera d'abord l'adjectif républicain.
Et un hommage à Jean-Louis Debray, dont l'engagement a été salué sur tous les bancs du Palais Bourbon. Jean-Louis Debray était le fils de Michel Debray, considéré comme le père de la Ve République, dont il a coordonné la rédaction de la Constitution. Le policier qui a tiré sur Naël en juin 2023, alors que le jeune homme refusait de s'arrêter à un contrôle routier, risque la cour d'assises. Le parquet de Nanterre, au bout de l'enquête, a en effet conclu que la thèse de la légitime défense ne pouvait être retenue, ce que conteste son avocat, maître Laurent-Franck Liénard.
Le droit donne l'autorisation aux policiers de tirer dans ces circonstances-là quand il y a un danger pour des victimes potentielles qui se trouveraient sur la trajectoire de la voiture, si elle redémarre. Et le parquet nous dit que mon client ne pouvait pas anticiper la trajectoire si elle redémarrait. Mais pour autant, derrière son dos, il y a des passants. Si la voiture redémarrait, elle percutait les passants. Et ces passants, on les voit très bien sur la vidéo. Donc, dire qu'il n'y avait pas de danger si la voiture redémarrait, c'est une hérésie complète. C'est contre l'ensemble de ce dossier.
Et il appartient maintenant à deux juges d'instruction de se prononcer sur l'éventuel renvoi du policier ou non devant une cour d'assises. Et puis, pour refermer cette page d'actualité nationale et internationale, des nouvelles de la santé du pape. Il est hospitalisé depuis le 14 février dernier pour une double pneumonie. Après les deux crises respiratoires dont il a été victime il y a 48 heures, son état de santé reste préoccupant. Caroline Baudry pour Europe 1.
L'état de santé du pape François, 88 ans, est stable selon le communiqué. Aucune nouvelle crise respiratoire n'est enregistrée aujourd'hui, a indiqué le Vatican. Il n'a pas de fièvre, mais il reprendra cette nuit comme prévu la ventilation mécanique via un masque à oxygène. C'est ce qui l'a aidé à respirer hier lors des deux crises respiratoires sévères qu'il a subies et qui font dire à l'équipe médicale ce soir encore que le pape n'est pas hors de danger. Aucune indication sur sa durée de séjour au 10e et dernier étage de l'hôpital dans cette petite chambre papale où le matériel médical est installé à côté d'une petite chapelle et sur le parvis devant l'entrée de l'établissement. Une centaine de bougies scintillent. Pape François, rétablis-toi vite, peut-on lire sur un dessin d'enfant. Une délégation venue d'Argentine a déposé une icône de la Vierge bleue et dorée avant d'improviser une prière de groupe pour témoigner du soutien de tous les fidèles de son pays d'origine.
Il est midi et 4 minutes, une dernière pause avant de défiler l'actualité sportive. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Les instants Magnum à 230 francs sont de retour jusqu'au 23 mars. C'est le moment ou jamais de craquer pour votre parfum préféré. Classique, amande, star chaser ou Euphoria Wonder. Votre Magnum préféré à 230 francs, c'est le moment de vous faire plaisir. Offre valable jusqu'au 23 mars 2025 sur les bâtonnets Magnum vendus à l'unité dans les points de vente participants à l'opération. Plus d'infos sur la page Facebook Magnum & Co.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par l'actu football, puisqu'on jouait ce matin les premiers matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lionel Sabot, Lille, l'un des deux derniers clubs français encore dans la compétition, était en déplacement au Borussia Dortmund.
Et après une phase de poule très réussie, rappelons que les Lillois s'étaient qualifiés directement pour les huitièmes de finale, les Dogs ont une nouvelle fois parfaitement bien maîtrisé un déplacement qui s'annonçait pour le moins compliqué sur la pelouse du finaliste malheureux de la précédente édition de la Ligue des Champions. Mené au score dès la 22e minute de jeu, les hommes de Bruno Genesio n'ont rien lâché, ont fini par égaliser par Alisson à 20 minutes de la fin de la rencontre. Score final, un but partout. Et Lille qui conserve donc toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale la semaine prochaine à domicile. Dans les autres matchs de la matinée, c'est le Real qui a remporté le derby madrilène face à l'Atlético. Les Merengues, grâce à des buts de Rodrigo et Diaz, se sont imposés 2-1. Le retour s'annonce chaud bouillant dans 8 jours chez les Colchoneros. Le carton du jour pour les Gunners d'Arsenal qui sont allés l'emporter, écoutez bien, 7-1 sur la pelouse des Hollandais du PSV Eindhoven, ça fait un peu score de baby-foot. Le match retour la semaine prochaine à Londres devrait être une formalité pour les hommes d'Arteta. Dans la dernière rencontre du jour, les Anglais d'Aston Villa sont allés l'emporter 3-1 sur la pelouse des Belges du club de Bruges. Suite et fin de ces huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions demain matin pour nous. À suivre Feyenoord Rotterdam, Inter Milan, Benfica Lisbonne, FC Barcelone, Bayern Munich, Bayer Leverkusen et puis le choc entre le PSG et Liverpool. Ce sera au Parc des Princes, coup d'envoi de cette rencontre à 7h hors de Nouméa.
Allez, revenons en Calédonie et plus particulièrement au collège Baudoux qui célèbre la journée nationale du sport scolaire. Toute la matinée, 120 élèves de 6e et du dispositif Ulysse ont participé à des ateliers sur le thème « Vie, mon handicap », Léana Colombo.
C'est au stade PLGC qu'avaient lieu ces ateliers par groupe de 10 élèves. Objectif de la journée, promouvoir l'inclusion et le sport adapté aux personnes en situation de handicap au travers de différents sports. Les jeunes collégiens ont donc pu s'essayer à la course avec guide, au lancer assis, au basket ou au tennis fauteuil, mais aussi au sessi-foot. Une matinée pédagogique où les élèves ont retenu beaucoup de choses. Écoutez.
J'ai appris qu'il y a différents sports pour les gens en situation d'handicap et que les sports d'handicap, c'est bien quand même.
D'être en fauteuil roulant ou d'être en situation d'handicap, c'est pas toujours facile. Surtout que la course avec les yeux bandés, on avait très peur de tomber et il y en a qui sont tombés.
Il faut apprendre à respecter les handicapés parce que on vit pas à leur place.
Et au niveau des ateliers, alors, comment c'était ce matin?
Il y en avait qui étaient amusants et d'autres fatigants et on a aussi appris d'autres choses.
On a appris qu'il ne faut pas se manquer des handicapés parce qu'ils peuvent être de naissance, donc ça peut être compliqué pour eux de l'accepter. Mais comme on peut l'avoir, on a vu des sportifs qui sont très contents, qui vivent avec leur handicap et qui sont contents, enfin, qui peuvent bien le prendre. Par exemple, là, on a fait de la course à l'aveugle et donc tu dois vraiment être concentré à l'écoute, à ton camarade. Donc si c'est aussi un travail avec beaucoup d'écoute.
Parmi les autres ateliers proposés, des rencontres avec les athlètes handisport de haut niveau Pierre Ferbank et Delphine André. Chaque année, l'établissement choisit une thématique différente pour illustrer cette journée nationale du sport. Et pour Élodie Launay, professeure de PS au Collège Baudoux, le thème du handicap s'est imposé comme une évidence.
Le choix de la thématique, c'est un choix qui a été fait par l'ensemble de l'équipe pédagogique du collège. Parce qu'on a constaté que parfois, il y avait des incompréhensions, peu de tolérance, et on voulait faire partager des valeurs communes. C'est l'objectif de vivre des émotions, de vivre au niveau de sa motricité d'autres choses. C'est vraiment vivre son handicap.
Une matinée sportive et éducative qui vise également à sensibiliser et inciter le grand public à pratiquer une activité physique de manière régulière dans un objectif toujours de bien-être et de santé.